Faut croire qu'on aime ça jaser parce qu'à 13h41, Pascal CV et moi-même, on termine un petit 6 heures de radio. Notre collègue Max Larouche qui est avec nous autres le matin fait pareil à midi. Donc, la vie est belle à Boulevard 102.1. On est très heureux d'être avec vous. Moins 8 degrés pour le moment, c'est le maximum aujourd'hui. 40 % de possibilité d'averse de neige, moins 6 demain. Possibilité d'averse de neige à 30 % neige et 0 degré pour mercredi, 0 degré alternance de soleil et nuages pour jeudi. Pascal, ce soir, 19h, podcast des grands événements avec Denis Gravel.
Exactement. Il a fait ces podcasts-là en ondes, en live, pendant une heure, une fois de temps en temps, entre 14 et 15, ou 15 et 16, tout dépendait. Mais ça peut être un excellent moment à ne pas manquer si vous êtes passionné d'événements qui ont marqué l'actualité. Oui, mais donc l'histoire, puis surtout de la ville de Québec, parce que ce sont les grands événements de Québec. Et ce soir, 19h, c'est une autre diffusion, autre épisode à vous présenter sur les ondes de Boulevard 101. Et ça, ça se ferait pas sans Climatisation Paquette. Merci beaucoup à Climatisation Paquette d'embarquer dans ce beau trip-là.
Exactement. D'ailleurs, Val me dit... Mon chum d'amour pour cet été, on va faire appel à Climatisation Paquette, une thermopompe, puis let's go.
Donc,
j'ai dit pourquoi pas, on va faire ça. On s'en va rejoindre à l'instant même l'enseignante, la professeure titulaire en sciences de l'éducation à l'Université Laval, Mme Isabelle Dufour-Fortin, parce que je suis certain que vous vous posez la question, comme nous, comment les gangs criminalisés font pour recruter ces jeunes-là? Mme Dufour-Fortin, merci d'être avec nous cet après-midi.
J'ai plaisir.
Madame Dufour-Fortin, vous avez fait une large étude avec des jeunes qui sont criminalisés de 18 à 35 ans pour comprendre pourquoi ils s'intègrent justement à des groupes criminalisés. Quelles en sont les grandes conclusions?
En fait, l'étude s'adressait à des jeunes de 16-35. On en a rencontré quand même plusieurs à 2 tonnes de mesure. Et l'article dont vous parlez, là, ça porte sur un plus petit échantillon de 8 jeunes qui nous ont raconté avoir été recrutés par des gangs de rue. Ces jeunes-là ont été recrutés très tôt dans leur vie, donc autour de 11, 12, 13 ans. Généralement, les jeunes se font approcher et se font offrir des choses auxquelles ils n'ont pas accès, des vêtements de luxe, des trucs qui sont symboliques pour eux. Et puis, plus ils développent des liens étroits avec les gangs de rue, ben là, plus on va leur demander là, de faire des choses qui sont risquées pour eux. Si bien que, même après un certain temps, s'ils réalisent qu'ils sont pas bien, qu'ils aimeraient partir et tout ça, ça devient parfois très difficile pour eux là, de quitter le gang.
Alors, ça explique pourquoi il y a un genre de taux de rétention au niveau des jeunes au sein des gangs de rue. Et donc, ces jeunes-là aussi qui vont chercher des jeunes, parce que pour plusieurs, c'est pas nécessairement des adultes très bien développés, là. C'est du recrutement de jeunes par des jeunes dans certains contextes. Ils connaissent très bien la psychologie puis comment enrôler quelqu'un.
Mais il y a deux façons qui nous ont été rapportées par les jeunes. La première, c'est quand ils réalisent que c'est un jeune qui est lui-même victimisé dans sa famille. Donc, si c'est un jeune, ben, pas nécessairement sa famille d'origine, il peut être en centre jeunesse, il peut être... Bon, il y a quelqu'un quelque part qui les maltraite selon le point de vue de l'enfant. Alors, ils vont le recruter, puis ils vont dire, ben nous, on va te protéger. On va t'offrir la protection dont tu as besoin. Puis, ces gens-là, ils ne te feront plus jamais du mal. Et les jeunes nous ont raconté des histoires là, d'aller frapper à la porte d'un papa, puis dire, on sait que tu es violent envers ton fils, puis si tu y retouches, c'est nous qui allons régler ton compte. Donc, vraiment, des actions directes pour dire à l'enfant, bien, tu vois, je te le montre, je te protège. Et dans certaines autres stratégies, bien, en fait, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on attaquait, donc un membre d'un gang de rue attaque un jeune, il enlève son téléphone, ses chaussures, ses choses, et après un certain temps, lui rend en disant, bien, si tu n'as pas aimé cette expérience-là, t'aimerais-tu que je te protège? Donc, dans les deux cas, on offre aux jeunes, on fait miroiter qu'ils vont être en sécurité, qu'ils vont avoir accès à de l'argent facile, que ça va être une belle vie, la vie des gangsters. Donc, on fait miroiter des choses qui, en bout de piste, ne correspondent pas vraiment à la réalité de ce que les jeunes ont vécu.
Et les gens qui recrutent, est-ce qu'en majeure partie, c'est des jeunes adultes, exemple entre 18 et 24 ans, justement pour créer ce lien de confiance-là?
Bien, il y en a de tout âge. Il y a des jeunes qui se sont fait recruter par d'autres adolescents, quand même assez jeunes, tu sais, presque du même groupe d'âge, là, 14, 12, tu sais, 12, 14, 13, 15, ce genre de duo-là. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, bon, ben, tiens, viens, je vais te présenter à mes chummies. Puis les chummies vont devenir de plus en plus vieux. Et vont devenir de plus en plus structurés. D'autres jeunes ont été vraiment recrutés par des jeunes adultes, des hommes de 23, 24, 25 ans. Et pour ces jeunes-là, deviennent comme une figure parentale. Donc, ils vont les prendre un peu sur leur aile en disant, tu sais, moi, j'ai déjà été à ta place, j'ai déjà vécu toute la violence que tu as vécue, puis regarde aujourd'hui, j'ai une belle vie, j'ai une belle auto, j'ai une, tu sais, puis ils les mettent un peu dans cette position de mentorat. Et dans ce cas-là, les enfants développent un lien vraiment, vraiment fort avec ces personnes-là. Et certains jeunes ont même dit, ben c'est mon autre père, c'est mon père de gang, finalement.
C'est un peu triste de voir que ça part finalement d'une enfance peut-être plus difficile, de famille peut-être désorganisée ou autre. Mais est-ce que ça, c'est un stéréotype ou ça peut venir aussi d'enfants, de familles qui ont plus de chance finalement ou qu'un encadrement parental qui est adéquat?
Ça peut venir de... Tu sais, on en a vu que c'est vrai que les enfants avaient été victimisés par leurs parents, mais il y en a d'autres que c'est des enfants où les parents sont très occupés. Sont pas trop au courant de ce qui se passe avec leur enfant, qui se préoccupent un peu moins d'eux, tu sais, qui passent en dessous du radar parce que justement, ils ont l'air de bien fonctionner. Mais ces jeunes-là, ils peuvent être aussi recrutés. Dans le fond, tout ce que les gangs cherchent, c'est des jeunes qui ont un fort besoin d'appartenir, qui ont un fort besoin de faire partie de quelque chose. Si on le sait à l'adolescence, le sentiment d'appartenance, c'est vraiment primordial là, pour traverser cette étape développementale. Donc, ils ont compris ça, puis ils font agir cette mécanique-là. Là, peu importe si le jeune il vient d'un milieu plus riche ou pas, ils sont assez habiles pour recruter là, à peu près n'importe quel jeune.
Vous parlez de jeunes qui vivent différentes problématiques personnelles qui sont justement dans la mire des recruteurs. Et là, je regarde par exemple à l'école, on coupe dans les TES, on coupe dans les psychologues. Est-ce qu'on prend vraiment la bonne voie à l'heure actuelle en société ou on est complètement dans le champ?
On est complètement dans le champ. On est très, très, très préoccupés des dernières prises de décision. Il faut savoir là, que le judiciaire, puis tout ce qui est les peines, tout ce qui est incarcération, tout ça, ultimement, là, c'est pas ça qui protège la société. On a plusieurs études qui le montrent. Là. Ce qui vraiment protège, c'est les actions communautaires, les actions préventives, les actions de outreach, les actions de travail de rue. Tout ça, là, on le sait, c'est ça les meilleurs moyens de prévenir la récidive, prévenir l'adhésion gang, prévenir la criminalité. Et là, on coupe dans tout ça. Fait que si on coupe dans toute la prévention, ben, tu sais, on va vivre inévitablement des choses qui vont être beaucoup plus désagréables.
Y a-t-il des choses qu'on peut faire, nous, en tant qu'IDAM, au travers de tout ça, ou c'est vraiment hors de notre contrôle?
C'est sûr que c'est à la portée de tout le monde. Nous, on l'a vu, le désistement, là, sortir de la criminalité, là, ça prend une personne. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, puis on a rencontré des centaines et des centaines, sont toujours capables de nous nommer une personne. Des fois, ça peut être un mentor, des fois, ça peut être un voisin, des fois, ça peut être évidemment un intervenant, une intervenante, mais tout le monde qui voit un enfant qui dérape, qui est pas bien, qui est en train de faire des choses dans lesquelles il est pas bien, devrait offrir de l'écoute, offrir une porte de sortie, référer ces jeunes-là à des organismes communautaires qui sont spécialisés pour leur venir en aide et vraiment les sortir de ces situations-là. Donc, je pense que c'est vraiment une visée citoyenne d'être à l'affût puis de voir, de pas laisser passer ces situations-là où on se dit, mais comment ça se fait que cet enfant-là, il est avec cet adulte-là? C'est bizarre, tu sais. Questionner la personne, qu'est-ce que tu fais avec eux? Pourquoi tu es avec ces gens-là? Qu'est-ce que ça te donne? Puis essayer le plus possible là, de travailler tous ensemble pour les sensibiliser à la vraie réalité de ce qui les attend.
Une fois rentrés dans les gangs criminalisés, est-ce que ces jeunes-là se sentent complètement prisonniers et sont pas capables de s'en sortir?
Exactement. C'est vraiment le feeling qu'ils ont. Ils ont le feeling que s'ils se départissent de la sécurité du gang, ils se mettent à haut risque de rétaliation de la part des autres gangs. Et ça, c'est tout à fait vrai. Malheureusement, on en voit là, presque quotidiennement des jeunes qui se font attaquer par le gang rival. Donc, il faut offrir, nous, comme société, une protection à ces jeunes-là. Il faudrait que, de la minute qu'ils lèvent la main et qu'ils disent « je veux m'en sortir », que la solution, ce ne soit pas « bon, on va te mettre en prison », mais ce serait « ben qu'est-ce qu'on peut faire avec toi, comment on peut t'aider, puis quelles sont les ressources qu'on peut mobiliser pour t'aider à quitter le gang », en offrant la sécurité qu'ils cherchent, en fait. C'est vraiment ça qu'ils nous demandent.
L'affaire, c'est qu'en offrant la sécurité qu'ils cherchent, on les aide à sortir puis à avoir le sentiment de sécurité, mais s'ils ont commis des actes criminels, c'est dur de pas les faire juger, en fait, par un système judiciaire habituel?
Bien, écoutez, je vous pose la question. Quand on parle là, des jeunes qui sont recrutés par les armées, par exemple, en Afrique, pour commettre des actes armés, est-ce que vous diriez que ces jeunes soldats-là, il faut les mettre en prison?
vous vous les mettez dans le même endoctrinement que des
ben,
gens?
Moi, je fais vraiment parallèle entre les deux.
Mais c'est intéressant, c'est parce que
vous,
vous travaillez avec eux.
Un enfant qui est recruté à 11 ans ou à 12 ans, là, est-ce qu'il est vraiment consentant? Est-ce qu'il réalise vraiment dans quoi il s'engage? Est-ce que cette personne-là, on peut le responsabiliser pour les actes qu'il a commis bien souvent pour assurer sa propre sécurité? Est-ce qu'on ne doit pas revoir ça autrement? Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des conséquences, qu'il ne faut pas qu'il y ait des... Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il faut qu'il y ait aussi de la reconnaissance de leur souffrance, des traumas qu'ils ont vécu, puis il faut vraiment soutenir ces jeunes-là vers une trajectoire de désistement, plutôt que de les voir uniquement comme des acteurs conscients qui ont commis des actes criminels conscients. La plupart du temps, pas le cas.
Très, très, très intéressant. Madame Isabelle Dufour, on vous remercie infiniment d'avoir participé à l'émission On en jase, d'avoir participé à cette réflexion-là, justement, sur les jeunes qui entrent dans les gangs criminalisés. Au plaisir de se reparler.
Au plaisir. Au
merci.
Revoir, joyeuse
fête. Joyeuse fête à vous aussi. C'était Isabelle Dufour, professeure titulaire à l'Université Laval en Faculté des sciences de l'éducation. C'est fou comment, quand on regarde les problématiques de société qu'on a, on est toujours pourri en prévention.
Mais moi, je pense que le nerf de la guerre est toujours là.
Oui.
Mais même dans des conversations, quand on parle d'un problème, c'est presque pas assez intéressant pour aller parler puis creuser en dessous du problème.
Exactement.
Imagine faire de la prévention.
C'est ça. Donc, tu vois, là-dedans, prévention, si je pense à des aux problèmes d'obésité chez nos jeunes, bien, prévention, il n'y a pas assez de cours d'éducation physique à l'école. T'sais. Nos problèmes de santé, même principe. Il n'y a pas de prévention en santé mentale qui se fait auprès des jeunes. On va les accueillir une fois qu'ils ont frappé le mur. Donc, vraiment, c'est ces endroits-là qu'il faudrait développer. Puis où on peut développer, c'est une bonne idée qu'Isabelle Fortin-Dufourat, les organismes communautaires, les travailleurs de rue, les gens qui vont être en contact direct avec ces jeunes-là.
Je retiens aussi qu'on peut tous faire quelque chose pour un jeune qui est endoctriné, qui est dans le crime organisé, si jamais on en croise un puis qui semble pas être très, très bien dans ce mode de vie-là.
Exactement.
Mais la question reste, pour moi, pas nécessairement répondue. Qu'est-ce qu'on fait avec un jeune qui a connu des actes criminels, mais qui veut s'en sortir, qu'on doit protéger?
Ouais, est-ce qu'on passe nécessairement l'éponge? Comment on fait ça, en effet? C'est une excellente question. Pascal, c'est déjà tout pour nous. On se revoit demain matin dans Marceau le matin avec Max Larouche.
Sans faute.
Par la suite, on sera avec On en jase, point de Max entre nos deux émissions. Et c'est le retour de Gravel qui suit un instant avec Denis Audrey et Véro Bergeron. Podcast en rediffusion de Marceau le soir ce soir, mais à 19h, ne manquez pas podcast sur les grands événements. Denis Gravel qui s'entretient avec Agnès Maltais sur le sommet des Amériques. On vous souhaite une belle fin de journée sur nos ondes à Boulevard 101. On vous dit à demain. Bye bye, guys.
Bye.